بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط شفان إسلام dans ce verset Allah subhanahu wa ta'ala à la moitié du sourate Al-Buruj Allah azza wa jal après avoir mis en garde les personnes qui ont fait souffrir des musulmans à une certaine époque ces gens qui ont persécuté ont torturé ont tué des gens brûlés vifs, des hommes, des femmes et des enfants, uniquement parce qu'ils avaient la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah de leur cœur. Allah Ta'ala les a mis en garde. Et ensuite, Allah Azza wa Jal annonce la bonne nouvelle à ceux qui ont la foi et qui accomplissent de bonnes actions. Quelle sera leur récompense dans l'au-delà? Quelle sera la description du paradis qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala va les accorder? Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Et Allah Ta'ala a qualifié cet accès au paradis comme étant le plus grand succès. Comme étant le plus grand succès qu'un être humain peut espérer dans sa création. Quelqu'un qui a eu le paradis de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui a été protégé de l'enfer, c'est l'homme le plus heureux. C'est l'homme qui a réussi l'objectif de son existence. C'est pas juste quelqu'un qui a réussi un examen ou qui a réussi, je sais pas, un concours ou qui a réussi un examen de passage ou autre chose. Non, celui فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Et الفاز c'est quoi? ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. الفاز c'est le succès. Le succès, la victoire, c'est quoi? C'est quand tu quittes ce dunya, Allah Ta'ala est content de toi. Quand un musulman quitte ce dunya, il le quitte avec la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah et Allah Ta'ala est satisfait de ce mu'min. Quand on met ce musulman dans la tombe, ses actions viennent auprès de lui. Ses bonnes actions viennent auprès de lui. Lorsque les anges viennent lui poser des questions, il répond à ses anges avec grande facilité, avec aisance aux trois questions que les anges vont lui poser. Et bien avant ça, lorsque les premiers anges viennent le voir pour reprendre son âme, ce sont des malaikatur rahma, ce sont des anges de la bénédiction qui viennent avec du nour, avec la lumière. Et la simple vision de ces anges, les ulama disent que c'est déjà une récompense. La simple vision de l'ange de la mort sous son plus bel aspect, c'est déjà une consécration, c'est déjà une forme de récompense pour un mu'min. C'est la plus belle chose qu'il aura vue de toute son existence. Et avant que l'ange de la mort vienne reprendre son âme, il y a un cortège de 500 malaïka qui se tiennent à perte de vue et qui annoncent la bonne nouvelle à cette personne qu'Allah Ta'ala est satisfait de toi. Et ensuite l'ange de la mort reprend son âme. Ya yuhan nafs, ya yatuhan nafsul mutma'inna. C'est quoi ton trajet? C'est quoi la suite de ton existence? Est-ce que tu vas, comme certains pensent, hein, les âmes des morts errent et ils vont ennuyer, ils deviennent des fantômes, deviennent des esprits? Ou comme d'autres personnes disent, l'âme des morts nous protège dans d'autres religions? Non. Irji'i ila rabbiki. Retourne auprès de ton Seigneur. Mais quand on retourne auprès d'Allah, on peut trouver un Allah, un Rabb qui est content ou un Rabb qui est mécontent. L'âme des koufars aussi monte. L'âme des grands pécheurs aussi monte. Mais ils sont rejetés immédiatement. Les anges ne laissent même pas l'âme accéder au premier ciel, au deuxième, au troisième, au quatrième, etc. jusqu'au trône d'Allah Azza wa Jal. Tandis que celui qui a fait ses actions comme il le fallait, c'est quoi la suite donc? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. Il retourne auprès d'Allah et Allah est satisfait de lui. Dans cet hadith, il est même dit que l'ange de la mort annonce la bonne nouvelle à cette personne qui va mourir, le bon musulman, qu'Allah Ta'ala, Allahu yuqri'uka salam. Allah Ta'ala t'adresse ses salams. Et quelle plus grande chance, quel plus grand bonheur pour un être humain que de recevoir le salam de la part d'Allah avant de quitter ce dunya. Ça, c'est le succès, mes chers frères. On pourrait résumer tous les programmes, tous les bayans du monde entier à travers ces quelques paroles. Quitter ce monde avec le contentement d'Allah. Et comment obtenir le contentement d'Allah? Bonnes actions. Et rester éloigné des péchés. Accomplir ce qu'Allah Ta'ala nous a demandé tenir les responsabilités, s'acquitter des tâches en tant que musulman, en tant que mari, en tant que père de famille, en tant que voisin, en tant que citoyen musulman, tout ce qu'Allah Azza wa Jal nous a enseigné, tout ce que pardon, le prophète alayhi salat wa salam nous a enseigné comme huquq, comme droit et devoir aussi, et comme comportement, j'essaie de le faire au mieux. J'essaie d'éviter tout ce qui est interdit, tout ce qui est douteux, avec espoir qu'Allah Ta'ala va me rétribuer. Quand j'ai envie de faire quelque chose de pas bien, je me retiens, je m'en éloigne. Pourquoi ? Parce qu'Allah Ta'ala ne veut pas. Et quand on délaisse quelque chose pour Allah, ça c'est quelque chose qui est extraordinaire. مَنْ تَرَكَ شَيْئًا لِلَّهِ عَوَّضَهُ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهُ. Lorsqu'un musulman il délaisse quelque chose pour Allah, Allah Ta'ala va lui accorder quelque chose de beaucoup mieux. On expliquait ça aux jeunes notre fois. Hein? Vous êtes lycéen, vous avez 17 ans, il y a une jolie fille qui est dans votre classe, tous les garçons regardent cette fille. Et vous, mu'min, musulman, vous baissez votre regard, vous ne regardez pas la fille. Et cette fille-là, elle est intéressée par vous. Elle vient vous voir, commence à parler, commence à discuter, elle vous fait des avances, elle vous fait comprendre qu'elle aimerait sortir avec vous. Elle est jolie, elle est très jolie. Mais ce mu'min, il sait que s'il tombe de ce piège, c'est pas le piège de cette jeune fille. Parce que cette jeune fille, elle vient vers vous, c'est Shaitan qui guide ses pas. C'est Shaitan qui utilise cette personne comme une source de tentation de fitna. Pour détruire la personne là, celle qui fait des avances, et pour détourner un mu'min du droit chemin. Et Shaitan va faire plus de travail sur quelqu'un qui est dans le droit chemin. Quand quelqu'un est déjà éloigné, la personne est autonome. Elle est autonome dans la précipitation vers la perdition. Mais quand quelqu'un est dans le droit chemin, Shaitan va faire tout ce qu'il peut pour détourner cette personne. Alors donc, moi, jeune homme de 17 ans, je reçois des avances de cette personne et je fais preuve de sabre. Je dis non. Je dis que moi, je suis musulman, j'ai une identité, j'ai des principes et sortir avec une fille, aller au cinéma, aller au restaurant avec une fille, etc., sans relation de mariage, ça ne fait pas partie de nos pratiques religieuses. C'est pas que je l'ai jeté comme on dit, hein. C'est pas que je l'ai cassé à mort, non, je ne l'ai pas humilié. Je l'ai fait comprendre que moi, musulman, j'ai des principes, j'ai des convictions, j'ai une manière d'agir. Et cette personne-là qui délaisse le haram uniquement par amour d'Allah et par crainte d'Allah, pas parce qu'il y a des gens qui le voient, qui le regardent, Allah Azza wa Jal est très satisfait de cette personne. Et Allah Ta'ala va lui accorder quoi ? Dans d'autres commentaires, dans d'autres hadiths qui se rejoignent, Allah Ta'ala va lui accorder une lumière. Allah Ta'ala va lui accorder une lumière qui lui permettra de trouver la douceur de la foi et la douceur des bonnes actions. C'est-à-dire qu'il a délaissé un haram là. Il a délaissé quelque chose qui n'est pas bien. Et en récompense, en plus des sawabs qu'Allah lui accorde, mais immédiatement, Allah Ta'ala va le rapprocher de lui. Allah Ta'ala va faire en sorte que sa relation avec son Seigneur sera spéciale. Quand il va venir à la salat, quand le imam dit Allahu Akbar, il va ressentir quelque chose que les autres ne ressentent pas. Et c'est ce qu'on appelle le plaisir de la foi, halawatul iman. Comme les sahaba radiyallahu anhum ajma'in, pour eux, la plus belle des choses c'était la salat. Le prophète me dit que la fraîcheur de mes yeux c'est quoi ? C'est la salat. On demande à un musulman, ce serait quoi la fraîcheur de tes yeux ? Il dit, la fraîcheur de mes yeux, c'est de voir Ribéry lever la Coupe d'Europe 2012, champion. La fraîcheur de mes yeux, c'est quand je me lève le matin, devant ma porte, il y a une belle voiture. Une BMW X6, où il y a une Ferrari, il y a une Lamborghini, et que quand je me réveille, à côté de moi, il y a une femme magnifique, extraordinaire, exceptionnelle, aux mensurations incroyables de mannequin. La fraîcheur de mes yeux, c'est quand je me lève de mon lit, je sors dans mon palais, dans ma villa, il y a une piscine. Après, il y a ça. Ça, c'est la fraîcheur des yeux de n'importe quel être humain. Ce que chaque être humain recherche. Une jolie compagne, une belle maison, hein, une belle voiture, une bonne situation, être respecté, être même craint, d'accord ? Avoir des moyens, avoir la notoriété. Ça, c'est malheureusement la conception du bonheur des gens qui n'ont pas la foi. Ça ne doit pas être la nôtre. Et nous voyons que les gens qui n'ont pas la foi, ils courent derrière ces objectifs. Et il y en a beaucoup qui atteignent les objectifs. Combien de grands acteurs, combien de grands footballeurs, combien de grands artistes, musiciens ou autres qui sont devenus riches, célèbres, ils ont tout, ils font la une des potins mondains, des je ne sais pas quoi, etc., etc. Ils ont tout, mais ils ne trouvent pas la tranquillité du cœur. Ça, c'est pas normal, ça. Quelqu'un qui gagne 800 000 euros par mois, grand footballeur, il a besoin de se droguer, il a besoin d'acheter des stupéfiants. Alors qu'il est riche, il a tout ce qu'il veut, il claque des doigts, il a ce qu'il veut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si on obtient le dunya tout entier, avec toutes les plus jolies femmes, et si c'est une femme, les plus beaux monsieur, hein, faut dire dans les deux sens, avec les plus belles terres, les plus beaux palais, tout ce qu'il y a comme plaisir de ce dunya, si tous les êtres humains, si un être humain pouvait avoir tout ça, jamais il ne trouvera le plaisir qu'il y a dans un sijda sincère devant son Seigneur. Jamais il ne trouvera le plaisir, un plaisir similaire, semblable à celui d'Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu lorsqu'il se prosternait devant Allah. Un sijda ou un rak'at comme Umar ibn al-Khattab ou Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib lorsqu'il faisait le zikrullah. Parce que ces sahaba, ils avaient tout délaissé pour Allah. Moussa ibn Umair radiallahu anhu racontait son histoire mardi à Montreuil, hein, concernant les jeunes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah azzawajal. On avait cité l'exemple de quelques jeunes. Ce jeune homme, Moussa ibn Umair, il avait tous les biens. C'était un des plus riches de Makkah al-Mukarrama. Quand il a vu la vérité avec un Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit à ses parents, je vais lire Shahada. Et on l'a mis en garde. Si tu vas suivre cet homme, c'est fini. On te chasse, tu perds tout. Il y avait un dilemme. Soit il reste, hein, dans tout le confort qu'il a, mais il sait bien qu'en se prosternant devant une pierre, il ne trouve pas la tranquillité du cœur. Ou alors, il suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il perd tous les biens de ce monde, mais il a le contentement de son Seigneur, de son Khaliq, et il a fait le bon choix. Il a décidé de lire la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, et il a tout perdu de ce dunya. Mais en fait, il a tout gagné. Parce qu'il a gagné l'au-delà, le akhira. Il a perdu ce dunya, mais il a gagné l'au-delà. Et vous savez ce hadith, lorsque le prophète alayhi salatu wasalam dit, si ce monde avait pour Allah azzawajal plus de valeur ou autant de valeur qu'une aile de moustique ou de mouche, Allah ta'ala n'aurait pas donné à celui qui n'a pas foi en lui même une gorgée d'eau. C'est-à-dire quand Allah donne à des personnes, à des gens, donne le dunya, donne la notoriété, la richesse, la célébrité, c'est parce que pour Allah azzawajal ces choses-là n'ont aucune valeur. Et Allah veut garder les vrais plaisirs pour le mu'min ou ça dans l'au-delà. Donc pour revenir à ce qu'on disait, le bonheur c'est ça. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Celui qui, qui a pu s'échapper, se protéger de l'enfer et qui a eu le paradis, c'est l'homme le plus heureux. Et puis comme on a commencé à décrire comment il est dans la tombe, le jour de la résurrection, il se ressuscite, il est ressuscité, il voit à côté de lui, il y a qui? Il regarde, il y a Abu Bakr al-Siddiq, il y a Hazrat Umar, il y a Uthman, il y a Ali, il y a Abdullah ibn Mas'ud, il y a Abdurrahman ibn Auf, il y a Moussa ibn Umair, il y a Usayr ibn Khudayr, il y a Sa'd ibn Ma'ad, Sa'd ibn Ubada, radiallahu anhum ajma'in. Comment il est heureux cet homme, ce mu'min? Il vient d'être ressuscité, l'Ardul Mahshar, il est avec les Sahaba. Il regarde, il y a des tabi'in, il y a des tabi'in, il y a Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim. Il se dit que Allah m'a choisi pour être ressuscité avec ces gens-là, avec les siddiqin, les shuhada, les salihin. Quel plus grand honneur! Et que cet homme est appelé pour être sous l'ombre du trône d'Allah azzawajal, et qu'il reçoit son livret de compte dans la main droite. Il voit que le mizan au niveau de la balance, il n'y a aucun souci pour lui. Les quelques péchés qu'il a pu accomplir par erreur, Allah l'a pardonné par le biais des actions qu'il fait régulièrement, ou par le tawbatul nasuha qu'il demandait régulièrement. Le prophète alayhi salatu wasalam, il demandait au moins 70 voire 100 fois istighfar par jour. Je me pose à moi-même la question, et à ceux qui sont là, qui a déjà lu 100 fois istighfar avant de dormir, avant salat al-isha? Le prophète alayhi salatu wasalam, celui qui n'accomplissait pas de péché, et que même s'il accomplissait un péché, ça aurait été immédiatement effacé par Allah Azza wa Jalla, mais il n'accomplit pas de péché, il demande au moins 70 voire 100 fois astaghfirullah par jour Allah subhanahu wa ta'ala. Hada. Ça c'est qualité du musulman. Donc cette personne, au niveau du mizan, de la balance, il n'a pas de péché. Son livret de compte, il a déjà eu de la main droite. Il passe le sirat à la vitesse de l'éclair, ce pont qui est suspendu sur le feu de l'enfer, et Allah Ta'ala lui fait accéder au paradis. Ça, c'est l'homme qui a réussi. Allahumma ja'alna minhum. Ça, c'est l'homme qui a réussi. Donc, Allah Ta'ala annonce cette bonne nouvelle pour celui qui est resté dans l'adoration d'Allah, qui avait la foi et qui accomplit les bonnes actions. Et tellement Allah est généreux que même ces gens d'Ashab al-Ukhdud, Allah Ta'ala fait comprendre que s'ils demandent pardon à Allah, Allah Ta'ala leur accorde son pardon. Même s'ils demandent pardon à Allah Azza wa Jal, malgré l'atrocité de leurs actes, malgré qu'ils aient accompli des génocides, ils ont torturé, brûlé vif des Ahlul Iman. Mais s'ils demandent tawbah à Allah Azza wa Jal, Allah Subhanahu wa Ta'ala aurait été prêt à leur accorder son pardon. Ensuite, donc, il y a mise en garde contre ceux qui ont fait de telles choses. Et Allah Ta'ala dit la riposte, inna batta sharabbika lashadid, la riposte de ton Seigneur est redoutable. Et ensuite, à partir du verset 13, Allah Ta'ala cite quelques sifat, quelques qualités d'Allah. C'est lui, certes, qui commence la création. Il a refait, innahu wa yubdi wa yu'id. Et c'est lui le pardonneur, le tout affectueux, wa huwa al-ghafur al-wadud. Et on s'était arrêté à là, il y a à peu près un mois, hein, jusqu'à la dernière fois qu'on avait fait le tafsir de Sourate al-Buruj. Donc le verset de ce soir, c'est wa huwa al-ghafur al-wadud, dhul arshil majid, le maître du trône, le tout glorieux. Fa'alul lima yurid, il réalise parfaitement tout ce qu'il veut. Hal ataka hadithul junud, t'est-il parvenu le récit des armées, Fir'aun wa Thamud, de Pharaon et de Thamud, balil ladina kafaru fi takdhib, mais ceux qui ne croient pas persistent à démentir, wallahu min waraihim muhit, alors qu'Allah derrière eux les cerne de toutes parts. Donc cette autre sifa, cette autre qualité d'Allah, c'est Zul Arsh al-Majid, hein, le maître du trône, le tout glorieux. Zul Arsh, c'est Sahibul Arsh. Et le Arsh, c'est la plus grande des créations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'Allah ta'ala a créé le Arsh, ensuite Allah azza wa jal s'est établi sur le Arsh. Allah ta'ala s'est établi sur son trône. Ça veut dire également que on va continuer cette logique, et avec la création du trône, Allah Ta'ala a créé des anges. Allah Ta'ala a créé des malaïka qui portent le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah, il est As-Samad. Vous vous rappelez tafsir de sourate al-Ikhlas, Allah As-Samad. Allah Ta'ala n'a besoin de personne. Allah Ta'ala est indépendant, omniscient, omnipotent. Allah n'a besoin d'aucune créature. Ça veut dire que le Arsh qu'Allah a créé, Allah Ta'ala peut s'établir sur le Arsh sans qu'il y ait des malaïka qui portent le Arsh. Quand l'ange Israfil va sonner dans la trompe, la corne, hein, il n'y aura plus aucune créature vivante. Donc même les anges vont mourir. Mais même s'il n'y a plus d'anges, le trône d'Allah il peut rester. Il n'y a pas besoin de malaïka qui portent. Et même si avant la création du trône, Allah Ta'ala était déjà là. C'est-à-dire qu'Allah il a toujours existé. Il existera toujours et Allah n'a besoin de personne. Dhul Arsh al-Majid, dans les hadiths, il est dit que, dans certaines sources, al-Athar, il dit que As-Samawat Sab' wal-Aradin Sab', on va dire en français, que les sept cieux et les sept terres comparés au Kursi. Le hadith, ça c'est la fin du hadith. On va prendre une autre version qui est plus, hein, qui commence dès le début. Il y a un hadith que la différence, hadith qu'on a déjà cité il y a quelque temps de cela, comment on pourrait dire ça? La différence entre le premier ciel, comparaison du premier ciel et ce monde et tout ce qu'il contient, c'est comme une personne qui prend une bague et il le jette fi ardin falat, dans un champ. Vous prenez une bague et vous allez dans un champ de canne, cette Marie, un endroit qui est un terrain vague, vous jetez une petite bague dedans. Ça représente quoi par rapport à ces hectares? C'est un grain de poussière. Et ça, c'est la comparaison entre la terre et tout ce qu'il contient et le premier ciel. C'est-à-dire que ce dunya, tout ce que nous voyons, c'est même pas un milliardième du premier ciel. La suite du hadith dit que le premier ciel par rapport au deuxième ciel, pareil, c'est comme quelqu'un qui prend une bague et il le jette fait ardin falat, et il jette dans un terrain vague. C'est même pas un milliardième entre le premier ciel par rapport à la grandeur du deuxième ciel. Et dans chaque ciel, il y a des malaïka. Il y a quantité d'anges dans le premier ciel, et dans le deuxième ciel, il y a beaucoup plus d'anges que dans le premier ciel. Et subhanallah, le hadith continue. Et ce hadith-là, on va dire, ça vous rend malade. Ça vous fait comprendre que la création d'Allah au-dessus de nous, c'est gigantesque. C'est indescriptible. C'est inaccessible pour un cerveau humain. Le deuxième ciel par rapport au troisième ciel, même description. Le troisième par rapport au quatrième, le quatre par rapport au cinq, le cinquième par rapport au sixième, le sixième par rapport au septième. Il dit le septième ciel par rapport au Kursi. Et le Kursi, c'est pas encore le Arsh. On ne va pas rentrer dans trop de détails. Le septième ciel par rapport au Kursi, c'est la même comparaison. Et puis au-dessus, il y a le trône d'Allah Azza wa Jal. Et ça, Allah seul sait comment il est. Ça, c'est un semblant de description du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, comment Allah il est ça? Ça, c'est pas de notre, de nos compétences, la description d'Allah Azza wa Jal. Mais nous pouvons déduire la grandeur d'Allah Azza wa Jal par la grandeur de sa création. Déjà, dans ce dunya, on retourne du septième ciel jusqu'à ce dunya. Quand on voit certaines choses de la création, hein, là, c'est la période des baleines. Quand quelqu'un voit une baleine, c'est grand, ça saute. On dit Allahu Akbar. Quelque chose qui fait 20 mètres, qui saute. Comment Allah crée cette créature? Comment Allah le nourrit? Quelle quantité de nourriture? Ça, c'est ce qu'on appelle Tawhid al-Rububiyya. On reconnaît la grandeur d'Allah, l'unicité d'Allah, par le biais de la création. Et à partir de ça, on déduit que, absolument, si toutes ces choses-là existent, c'est qu'il y a un créateur. Et ça, ça vous amène vers l'unicité d'Allah dans le Uluhiyya. Là, on reconnaît qu'il y a un seul Dieu, un seul créateur. C'est lui le créateur, le Raziq, le Malik. C'est lui qui crée, c'est lui qui donne la maladie, qui donne la mort. Et tout le sifat d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Maintenant, donc, on voit hein, ces hadiths qui décrivent le trône d'Allah. On comprend, on essaie de comprendre comment notre Seigneur, il est grand. Comment Allah, Azza wa Jal, il est magnifique. Dans d'autres hadiths, il est dit, il y a une description de un des anges qui porte le trône d'Allah, Azza wa Jal. Il dit, « Bayna shuhmati udhunayhi » وعاتقه شحمه الاذن c'est le lobe de l'oreille entre le lobe de son lobe de le lobe d'oreille de cet ange d'accord et عاتق et son épaule il y a une distance de 700 عام il y a une distance de 700 années un voyage de 700 années alors il y a des fois on se dit que oui ça c'est pas possible c'est... non subhanallah soit on est capable de lire d'écouter soit il faut pas écouter, il faut pas lire ce hadith parce que ça nous dépasse. Un cerveau humain n'est pas fait pour comprendre ça. Ça, c'est des descriptions du monde de l'invisible. Qu'on puisse comprendre ou non, de toute façon, on va le voir. Le jour des comptes, le jour de Mahshar, on va voir le monde de l'invisible. Et c'est une raison, une des raisons pour lesquelles les ulama disent une des sagesses du Sharq al-Sadr. De l'opération de la poitrine, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a été invité par Allah pour le voyage nocturne, certains ulama de Sira disent qu'il a subi une opération de la poitrine avant de monter au ciel parce que il va voir durant ce voyage des choses que un être humain ne peut supporter. Si un être humain voit ça, l'être humain meurt. Il y a des choses tellement gigantesques comme Ibrahim alayhi salam, si je ne me trompe pas, c'était lui qui a demandé à voir l'ange Jibril alayhi salam une fois. Il a dit Jibril d'apparaître sous son apparence normale de malaïka et non pas sous l'apparence d'un être humain. Jibril alayhi salam avait dit à Ibrahim alayhi salam de se retourner et il a ouvert une de ses je ne sais pas combien de ailes, j'ai pas en tête le hadith de ses 600 700 ailes. Ça a rempli al-ufuq tout ce qui peut contenir au niveau des cieux. Et Ibrahim alayhi salam a vu ça, il s'est immédiatement évanoui. Il y a des choses qu'un être humain ne peut pas voir. Tout ce qui a trait à l'au-delà, l'œil humain, le cerveau humain, s'il voit ça, c'est tellement donné que le cerveau peut exploser. C'est-à-dire, la personne ne peut pas comprendre. C'est irréalisable. Ça, c'est les descriptions de l'au-delà. Le jour des comptes, que nous soyons bien conscients, les hadiths décrivent que chaque être humain sera ressuscité et chaque être humain devra, on va dire malheureusement, voir l'enfer. Voir l'enfer se déchaîner, bouger, rejeter les anges qui le retiennent et réclamer ceux qui vont être le combustible, ceux qui vont venir d'un enfer. Certains hadiths, certains affaires décrivent que même les anbiya, les prophètes, ils auront peur. Ils vont tomber sur leurs genoux, agenouillés, ils vont demander protection à Allah subhanahu wa ta'ala. Ces choses extraordinaires qu'on décrit, l'être humain ne peut pas les réaliser, mais le jour des comptes, il va les voir. Et si on cite ces hadiths, c'est pour qu'on ait une idée de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala par le biais de la grandeur de ses créatures. Les créatures de ce dunya, on connaît plus ou moins, mais la grandeur des créatures de l'au-delà, ça c'est un autre niveau. Et ça nous permet également de comprendre, et permettez-moi, on termine un autre hadith, et il faut en arriver à cette conclusion, un hadith qui dit que, pour qu'on comprenne comment les anges, les créatures d'Allah, les créatures de l'au-delà, subhanallah, quelle est la nature de leur ibad? Quelle est la qualité de leurs actes d'adoration? Dans un hadith authentique, il est dit que il y a un ange, un exemple seulement que le prophète cite, il y a un ange qui, depuis qu'Allah l'a créé, c'est-à-dire depuis le début de la création, avant nous, hein, depuis qu'il a été créé, lorsque Allah s'est établi sur son trône, Allah Ta'ala a créé les anges, et il y a un ange parmi eux, Allah Ta'ala lui a donné comme mission de se prosterner, de rester dans le sijda. Il dit que cet ange, il est dans le sijda jusqu'à le qiyama. Depuis qu'Allah s'est établi sur le trône jusqu'à ce que l'ange de l'Israfil souffle dans la corne, jusqu'à ce moment-là, l'ange reste dans la position de sijda. Et lorsqu'il va, le jour de la résurrection, lorsqu'il va se relever, et il va dire, oh Allah, subhanak, ma abidnaka haqqa ibadatik. Oh Allah, toutes les louanges et puretés te reviennent. Certainement, oh Allah, je ne t'ai pas adoré comme tu le méritais. Depuis qu'il est créé jusqu'à la résurrection, cet ange dans le sijda devant Allah, mais le jour de la résurrection, il va dire, oh Allah, il demande presque pardon, il n'a pas adoré Allah comme il aurait dû le faire, il n'a pas assez adoré Allah Azza wa Jal. C'est assez pour qu'on comprenne comment Allah Ta'ala a des anges qui, toute leur existence, ils adorent Allah Azza wa Jal. Et pour revenir à la conclusion qu'on disait, pourquoi citer des hadiths qui parlent de la grandeur du trône d'Allah, c'est pour qu'on réalise devant qui on se prosterne. Quand je fais le sijda, devant qui je fais le sijda? Je ne dois pas faire mon sijda machinalement. Il ne faut pas que quand le imam fait salat al-isha, je fais vite isha, hein, je pense à autre chose, je dis que m'espère imam là, il y a vite. Parce qu'il y a l'ouverture là, l'euro. Il y a l'ouverture, j'ai besoin de voir toutes les danseuses, tous les trucs et tout, pour voir est-ce que c'est beau, c'est pas beau. Quel sijda on a fait devant Allah Azza wa Jal? Que l'être humain réalise que se prosterner devant Allah, c'est une chance, c'est un honneur qu'Allah accorde à une créature. Vous vous rendez compte, il y a des gens qui n'ont pas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah de leur cœur. On avait déjà dit l'autre fois, des kuffars, des mouchriquins, durant toute leur vie, depuis leur naissance jusqu'à leur mort, ils ne vont pas se prosterner une seule fois devant Allah. Quelle catastrophe! Quelqu'un durant toute sa vie n'a pas fait un sijda devant Allah Azza wa Jal. Quelqu'un qui n'a pas eu tawfiq, quelqu'un qui n'a pas été choisi par Allah pour avoir le kalima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dans son cœur. Ça c'est la pire des choses qui peut arriver à une créature. Et nous on fait le sijda, on a le kalima dans notre cœur, c'est une grande chance. Donc prenons conscience de cette chance quand je me prosterne devant Allah Azza wa Jal, que je le fasse avec khushu', avec khudu', avec dévotion, avec concentration, je m'applique, je réalise comment moi Allah il est grand, comment Allah a des créatures extraordinaires et qu'il m'accorde moi la chance de me prosterner devant lui, c'est une opportunité que je n'ai pas le droit de négliger et que je dois donner tous les droits à ce ibadah, à ce sijda, à cet acte d'adoration. C'est également pour qu'on comprenne que quand je désobéis à Allah, quel péché j'accomplis. Quand un musulman il regarde son match France-Angleterre, d'accord, et que pendant la mi-temps, il y a des clips, il y a des chants, il y a de la musique, et il regarde. Mais qu'il comprenne, qu'il réalise qui est-ce qu'il est en train de désobéir. Il est en train de désobéir le Khaliq, le Raziq, le Malik, Khaliq al-Samawati wal-Ard, celui devant qui il y a des malaïkas, comme on a dit, ils font sujda toute leur vie, et ils ont peur qu'Allah n'est pas assez satisfait d'eux. Alors que nous, délibérément, on accomplit des péchés. Ce mu'min qui va s'attarder devant un écran de télévision jusqu'à 1h du matin, il se dit que bon, je me couche à 1h, donc demain c'est samedi, bon, je mets mon réveil à 7h30, je me réveille, je vais acheter le pain, je dis à madame prépare le thé, et après je vais au travail. Mu'min, la ilaha illallah, il est où la ilaha illallah? Il est où l'adoration d'Allah? Où est l'amour pour Allah? Où est la crainte d'Allah de le cœur? C'est malheureux qu'un musulman il puisse faire passer son dunya avant son din. Il va regarder un match, peu importe ce qu'il va faire, mais que délibérément, il ne fait pas sa salat al-fajr. C'est pas comme quelqu'un hein, qui a mis le réveil 5 heures, il ne s'est pas réveillé pour une raison quelconque. Ça, c'est autre chose. Allah, il peut pardonner. Hein, s'il appelle ça un principe de précaution, etc. Mais quelqu'un qui délibérément n'a même pas l'intention de se lever pour la salat, quelle ingratitude! Et qu'on ait bien la crainte de nos cœurs qu'il est possible que si parfois, Allah nous protège, hein, par un geste, par un mauvais choix, par une mauvaise décision de notre vie, Allah Ta'ala décide de nous éloigner de lui. Allah Ta'ala décide que de jour en jour, de mois en mois, d'année en année, ce mu'min s'éloigne de lui jusqu'à ce qu'il quitte le dîn et qu'il s'en aille. Parce qu'Allah Ta'ala a été mécontent de lui. C'est possible, c'est pas possible. Je vous jure que c'est possible. Parce que les hadiths annoncent cette mauvaise nouvelle. Qu'il y a des gens qui, durant toute leur vie, accomplissent des bonnes actions, mais avant de mourir, ils font quelque chose de mal. Et leur nom est écrit sur la porte de l'enfer. Alors que toute leur vie, ils étaient dans le droit chemin. J'allais dire comme vous et moi, Allah seul, c'est si on est dans le droit chemin comme il faut. Des gens qui sont dans la droiture. Mais il y a une chose qu'ils ont fait qu'Allah n'était pas content. Parfois, ça peut être un mauvais choix. Entre le dîn et le dunya, je choisis le dunya et je délaisse l'adoration d'Allah. Allah Ta'ala n'accepte pas ce choix. Ça peut être une parole tellement vilaine. On a dit quelque chose de tellement vilain. Une parole qui a déplu à Allah. Pour ça, me dit qu'il y a des fois un homme peut dire une parole qui le fait chuter dans les abysses de l'enfer. Il y a une parole qui a tellement déplu à Allah qu'on passe du stade de grand bouselot, grand homme pieux, au stade au pied des degrés des gens de l'enfer. Ça, c'est des scénarios, c'est des choses qui sont possibles. Et on doit faire très attention. Il doit demander à Allah protection. C'est pour ça que dans la salat, on dit toujours « Ihdina as-salat al-mustaqim ». Demander à Allah de nous guider vers le droit chemin. Alors qu'on est « Ihdina as-salat al-mustaqim », c'est par opposition à « Ghayril maghdoubi alayhim wa ladh-dhalin ». Aux gens qui avaient d'autres convictions, qui n'avaient pas l'islam dans leur cœur. Alors que nous, on l'a. Mais pourquoi on le demande à chaque fois? Pour demander à Allah de nous garder, rester dans le droit chemin. Vous savez, quand un musulman il fait doua à chaque fois, la première chose qu'il doit demander, avant de demander que Wallah, mon fils va passer le bac, qu'Allah Wallah accorde la réussite, mon enfant passe le BTS, Allah accorde la réussite, Wallah, etc., protégez-moi la santé. C'est bien, il faut demander tout ça. Mais la première chose, Wallah, garde-nous dans le droit chemin. Garde l'iman de notre cœur et accorde-nous la mort dans le droit chemin avec la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Ça, c'est le plus grand souhait du mu'min. Mourir dans le droit chemin. Parce que personne ici, présent, ni moi ni vous, on a la garantie, ni on ne sait à l'avance si on va mourir avec le kalima. Allah seul le sait. Et donc, on doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder cela. Donc, pour revenir à Zul Arshil Majid, fa'alu lima yurid. On voulait rester à 40 minutes, 31, encore 5 minutes, Inch'Allah. Zul Arshil Majid, fa'alu lima yurid. Celui, il réalise parfaitement tout ce qu'il veut. C'est-à-dire, Allah Azza wa Jal, on va être très, très concis sur ce verset. Lorsqu'Allah Ta'ala a décidé quelque chose, Allah Ta'ala le réalise. Allah Ta'ala, pour lui, c'est kun fa fayakun. Il ordonne et la chose, elle existe. Contrairement à l'être humain, qui parfois, on veut faire des choses, on essaie de faire des choses, mais on ne parvient pas. Parce que notre volonté ne peut s'accomplir que par l'accord et la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Rien ne peut se faire, nos souhaits ne se réalisent pas, nos intentions, etc. sans l'accord d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et, vous savez le verset, il y a des fois où on veut faire quelque chose, on veut quelque chose, Allah ne l'accorde pas. Et des fois, on ne veut pas quelque chose, mais Allah nous le donne. Asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum. Il y a des fois où on n'aime pas quelque chose, mais Allah vous l'ordonne parce que c'est bien pour vous. C'est-à-dire qu'on comprenne que notre volonté, nous, l'être humain, nous ne faisons pas ce que nous voulons. C'est ce qu'Allah Ta'ala a décidé. Ça, c'est d'une manière générale de le destin. Après, concernant les actions bonnes comme mauvaises, là, on ne va pas entrer dans la question du taqdir. Peut-être dans le mois de Ramadan, si on parle du destin, ça, on aura l'occasion peut-être de développer. Là, il y a la relation entre ce qu'Allah a prédestiné et l'agissement de l'être humain. Parce que dans le dîn, il n'y a pas de fatalité. C'est pas que tout est prédestiné, donc si je fais un péché, c'est que c'était écrit. Si je fais une bonne action, c'est que c'était écrit. Non. Certes, il y a le destin, mais avant tout, il y a ce qu'on va faire. Et ce qu'on va faire, ce qui sera effectué par rapport à notre choix, Allah, il sait déjà à l'avance quelle va être notre décision. Et ça, c'est ce qui distingue le ilm d'Allah, la connaissance d'Allah par rapport à notre connaissance. Et pour revenir un peu sur ce hadith, sur ce verset, que Allah, lui, il fait ce qu'il veut, fa'alu liman yurid. Ça rejoint le hadith de Ibn Abbas, lorsque le prophète l'a enseigné, que sache que si le monde entier se réunissait pour t'aider, pour t'apporter quelque chose, ils ne pourront rien t'apporter en dehors de ce qu'Allah Ta'ala t'a déjà prédestiné. Et sache que si le monde entier se réunissait pour te faire du mal, pour te casser, pour te faire du tort, pour te détruire, ils ne te feront rien de plus que ce qu'Allah Ta'ala t'a déjà prédestiné. Il y a que tout est dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on est conscient que tout est dans les mains d'Allah, ben qu'on a besoin de quelque chose, à qui on va voir, à qui on demande, à Allah. Quand on lève les mains, on fait doua, je dois me souvenir de ces versets. Oh Allah, vous êtes le fa'al ou l'imam yurid, celui qui fait ce qu'il veut. Celui qui, même si le monde entier veut quelque chose pour moi, rien ne se fait sans l'accord, sans l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc par rapport, pour conclure, les trois versets qu'on a fait hein, ce dernier mois, si l'être humain est conscient que Allah il est al-ghafour al-wadud, le verset qu'on avait expliqué l'autre fois, c'est lui le pardonneur, le tout affectueux. Si j'ai bien compris ce verset, j'ai bien compris la générosité d'Allah, qu'Allah Ta'ala est pardonneur, alors je dois avoir espoir en mon Seigneur. Quel que soit mon niveau de vie, quelle que soit la situation de ma religion, de mon dîn, même si j'ai commis beaucoup d'erreurs dans ma vie, même si à un moment donné j'ai 40 ans, 45 ans, et là je me rends compte que j'ai fait beaucoup de bêtises, j'ai raté mes salawats, j'ai fait des choses haram, j'avais pas la présence d'Allah dans mon cœur, et que je veux revenir vers Allah, rien n'est perdu. J'ai juste à me rappeler que Allah il est Al-Ghafour, Al-Wadud, c'est Allah qui est le pardonneur et le tout affectueux. Et je dois me rappeler de ce hadith, lorsqu'un prophète me dit que comment Allah est content quand un musulman revient vers lui. C'est comme un homme qui était dans le désert, vous connaissez le hadith, avec sa monture, et que sur sa monture il y a tout. Sur le chameau, il y a le manger, il y a la boisson, il y a tout. C'est-à-dire, sa vie dépend, bi'idhnillah, de sa monture. Et que tout d'un coup, cet homme descend de sa monture, il s'abrite, se repose sous un arbre, il se réveille, le chameau, la monture est partie. Il est en plein désert. Il sait pertinemment qu'il va mourir, soit de faim, soit de soif, déshydraté, ou soit d'épuisement. Et là, il reste sous cet arbre, il attend l'ange de la mort qui reprend son âme, il attend de quelle manière il va mourir. Et puis tout d'un coup, après longtemps, il voit sa monture qui revient. Comment il est heureux? Il est tellement heureux qu'il remercie Allah, et dans l'euphorie, il dit « Oh Allah, je te remercie, tu es mon serviteur, je suis ton Dieu ». Il inverse, c'est-à-dire il s'empulit. Ça c'est la plus grande joie d'un être humain, c'est comme si que Allah lui accorde une seconde chance de vivre. Il a dit que comprenez ce que cette personne ressent, et Allah Azza wa Jal est encore plus content, encore plus satisfait lorsqu'une personne s'est éloignée de lui, et qu'un jour la personne prenne conscience de ses erreurs et que la personne revient vers le droit chemin. Notre religion, c'est la religion de l'espoir, la religion de l'amour, la religion du pardon. Il n'y a personne qui est condamné et il n'y a personne qui est condamnable. Et on ne doit jamais pointer quelqu'un du doigt. C'est que lui, il finit perdu ça. Jamais, mes chers frères. Même quelqu'un était dans le shirk, dans le kouf, jusqu'au dernier moment de sa vie, si à un moment de sa vie, il a eu la lueur de foi, Allah l'a enlevé de l'obscurité, l'a amené vers la lumière, et qu'il dise la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pour ça me dit que celui qui lit le calément, tout ce qu'il a pu faire comme péché, c'est effacé par Allah. Et que l'ange de la mort reprend son âme maintenant, il meurt sans le moindre péché. Et donc Allah Ta'ala l'accepte immédiatement. Ça, c'est le dîn de l'amour, du pardon et de l'espoir. Donc si j'ai intégré, j'ai compris ce verset, je dois garder espoir en Allah, savoir que Allah il va m'accepter. Et je dois faire le maximum pour qu'Allah soit satisfait de moi. Et l'autre verset, le verset qu'on a cité aujourd'hui, si j'ai bien intégré Zul Arshil Majid, qu'Allah Ta'ala c'est le maître du trône, le tout glorieux. Si j'ai réalisé, j'ai compris, j'ai intégré tous les hadiths qu'on a cités sur la grandeur du trône d'Allah, la grandeur des anges qui portent le trône d'Allah, la grandeur des anges d'une manière générale, la grandeur des cieux de la création d'Allah Azza wa Jal, les choses qui appartiennent au monde de l'au-delà, au monde de l'invisible, si j'ai bien compris ça, alors je dois glorifier mon Seigneur. Quand je me prosterne, je dois être conscient que je me prosterne à Imam Azim devant un Dieu qui est majestueux. Et je dois le faire avec dévotion, concentration, amour et crainte d'Allah en même temps. Et si j'ai compris enfin le dernier verset qu'on a vu aujourd'hui, Allah il est fa'alul lima yurid, Allah Ta'ala il réalise parfaitement tout ce qu'il veut. Donc quand j'ai besoin de quelque chose, yaka na'budu wa yaka nasta'in, je dois comprendre, ça veut dire quoi yaka nasta'in? C'est auprès d'Allah que je cherche refuge et secours. J'ai besoin de n'importe quoi, quelle que soit la situation de détresse, de difficulté, je m'adresse à mon Rabb, à mon Khaliq, à mon Seigneur, parce que Allah il est fa'alu lima yurid. Allah il réalise ce qu'il veut, quand il veut, de la manière qu'il veut, avec ou sans intermédiaire. Et même si c'est un problème avec une personne et qu'il n'y a pas besoin de moyens extérieurs, hadith dit également que les cœurs de l'être humain sont entre les mains d'Allah. Bayna usbu'ayni min asabi'ir rahman. Le hadith dit entre deux doigts des doigts d'Allah. Le hadith fait comprendre que c'est dans les mains d'Allah. Yuqallibuhu kayfa sha'. Allah Ta'ala change les cœurs comme il veut. Aujourd'hui, la personne vous déteste. Demain, vous ne savez pas. Allah change son cœur et la personne éprouve de l'affection pour vous. Donc, on doit comprendre les trois versets. Wa huwa al-ghafurul wadud. De l'arsh al-majid. Fa'alul lima yurid. Pour comprendre les qualités de sifat d'Allah et faire les actes d'adoration en rapport avec ces sifat. Qu'Allah t'en donne tawfiq de comprendre ces quelques paroles, que la grandeur d'Allah entre dans nos cœurs et nous permette d'être dans le droit chemin, de faire des bonnes actions et d'éviter les péchés. En deux minutes, un petit compte rendu en deux minutes chrono, inshallah, comme on l'a fait dans toutes les mosquées Saint-Denis, et le Montreuil et Saint-Clotilde, hein, il restait la tanière, on avait fait bidnillah un rassemblement de jeunes. Le 20 mai, à la mairie de Saint-Denis, il y avait, alhamdoulilah, à peu près entre 450 et 480 jeunes de toutes les villes de la Réunion, entre 15 et 25 ans. Donc c'est un programme où les jeunes avaient la parole, ils pouvaient poser des questions aux ulama, aux conférenciers qui étaient là. On avait des conférenciers de ulama de la communauté indienne, on avait également de la communauté comorienne et mahoraise. Ça veut dire que tout le monde trouvait quelqu'un avec qui dialoguer. Et il y avait en priorité les questions, il y avait des thèmes. Le premier thème, c'était la muhabbat à la umma, avec l'intervention d'un frère converti à l'islam et l'intervention d'un frère comorien, Rajab, peut-être que certains connaissent Rajab Muhammad Islam, le fils du grand fundi Muhammad Islam. Et l'objectif, c'était de comprendre que quand on est mu'min, peu importe les couleurs, peu importe les origines, peu importe je suis musulman de naissance ou converti, il y a la ilaha illallah de nos cœurs, ce qui fait de nous des frères. Ça, c'était le premier thème, première intervention. La deuxième intervention, c'était sur les addictions, problèmes en rapport avec drogue, alcool et d'un second plan cigarette, chicha et tout ce qui vient avec. Et troisième thème, c'était concernant le zina, l'adultère et l'homosexualité, les relations extra-conjugales, les relations qui sont dans le haram. Et enfin, terminer par quelques conseils sur le respect des parents, la relation entre le jeune et ses parents, le respect qu'il doit envers ses parents. Et donc, il y avait donc ces interventions et l'objectif c'était qu'après les interventions qui duraient 10 à 15 minutes, le micro était accordé aux jeunes, ils pouvaient poser les questions qu'ils voulaient, interpeller, même remettre en question les paroles de l'intervenant sans qu'il n'y ait de barrière. On a cassé les barrières qu'il y a normalement entre le public et le alim, le imam, le fundi qui parle. Et alhamdoulilah, depuis 10h jusqu'à 16h30, on a dû contenir les gens. On a dû parfois arracher les micros de la main des gens, autrement il y aurait eu des questions sans interruption. Ce qui veut dire que notre jeunesse, souvent on pointe la jeunesse du doigt. On dit que ben jeune là, de nos jours, il fait n'importe quoi, ben là il donne péché, il n'a jamais eu ben jeune comme ça. Mais c'est une génération qui veut dialoguer, qui est prêt à s'exprimer et qui a besoin d'oreilles attentives pour les écouter et de cœur ouvert pour apporter des solutions. C'est des jeunes qui très souvent aimeraient s'en sortir. Ils se sont reconnus à travers les différents fléaux qu'on a cités. Ils ont vu que malheureusement pour beaucoup ça fait partie de leur vie, mais qu'ils aimeraient trouver une solution pour sortir de ces problèmes. Et puis il y avait les questions anonymes et c'était ça les plus intéressants parce que c'est les questions qui dérangent, les questions tabous, les questions qu'en temps normal quelqu'un, un jeune ne viendrait pas me demander parce qu'il a honte. Bon, il y avait des questions, il y avait du tout, hein, mais une des choses que j'aimerais, un message qu'on m'a demandé, c'est un aman, hein, de la part de beaucoup de personnes, de beaucoup de jeunes, à faire passer un maximum de gens, les publics adultes, hein, pour ceux qui sont parents, c'est problématique en rapport avec le mariage. Problématique en rapport avec le mariage. La tranche d'âge de 18 à 25 ans, je ne parle pas des 15-18, ça, on ne parle pas de mariage. La tranche d'âge de 18 à 25 ans, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de courriers anonymes, de lettres anonymes qui sont venus. Ils disent qu'on a un problème. On a un problème, on ne veut pas faire le zina. Vous avez expliqué quels sont les dangers de l'adultère, on est tous conscients. Mais j'ai 18 ans, j'ai 19 ans, j'ai 20 ans, je suis amoureux d'une fille. J'aimerais épouser cette fille, mais les parents font obstacle. Et il y a deux cas de figure. Il y a deux gens de courrier. Il y a ceux qui disent que les parents, hein, ils fixent la barre trop haut. Ils disent que il faut que tu aies ton doctorat, ton master, ton travail, ton appartement, tu deviennes autonome, là tu vas te marier. Elle dit, mais quand est-ce que je vais terminer mes études? J'ai 18 ans. Je viens d'avoir le bac, je viens d'entrer à l'université la première année, j'ai encore 6 ans devant moi. Et on sait tous que parfois on rentre dans une branche, ça ne marche pas, on change de branche. Il dit que pendant 6 ans, je fais quoi? Je suis un être humain. J'ai des pulsions comme n'importe quel être humain. Combien de temps je vais résister aux zinas? Et si je sombre de le zina, c'est uniquement par rapport au fait que mes parents m'ont empêché de faire le nikah. Donc ça, c'est une première problématique. Et la solution qu'on a proposée, et on nous a demandé de véhiculer ce message, c'est à l'attention des parents qui savent que leurs enfants, leurs grands, on ne dit pas 14-15 ans. 14-15 ans, on est amoureux de n'importe qui, n'importe quand. Ce n'est pas sérieux. On parle d'amour sincère. Quand quelqu'un a vraiment des sentiments pour une personne et que la personne d'en face, la fille, si c'est un garçon c'est une fille, hein, et c'est des gens qui ont les qualités de dîn, qui ont toutes les qualités requises pour un mariage et que je sais pertinemment que financièrement, ils ne pourront pas avoir une vie commune. La possibilité, ce que nous en tant que parents nous pouvons faire pour aider ces jeunes et pour les protéger de l'adultère du zina, c'est de faciliter l'accès au mariage. Même s'ils n'ont pas d'autonomie financière. De quelle manière? De concrétiser un nikah officiel, mais le charte, la condition, c'est que la vie commune, c'est dans 3 ans. Dans 4 ans. Ça, c'est quelque chose qui est possible. On avait des mouftis et tout, ils ont dit qu'il n'y a aucun souci, c'est possible. Par exemple, j'ai une fille de 18 ans, il y a un garçon, un jeune homme de 20 ans, hein, et je sais que ma fille et ce garçon-là, ils sont amoureux. Et que tous les deux, ils font des études et que bientôt, dans 3-4 ans, ils vont terminer. Mais que vous savez, le mahol, vous savez, en 2012, c'est pas comme en 1970 ou en 1960, où il y avait la séparation, un garçon d'un côté, fidèle. Donc déjà, c'est impossible. Le zina, l'adultère est partout. Si vous n'allez pas le chercher, il vient vous chercher. Malheureusement, c'est une réalité. C'est pour ça que dans certains contextes, vous savez que le nikah est sunnah. Le mariage est une sunna. Mais dans certains contextes, les ulama disent que ça peut devenir obligatoire. Si une personne sait que sans le nikah, elle tombe dans le zina, elle doit absolument se marier pour éviter le zina. Donc, je sais que leur situation est ainsi. Donc, je peux autoriser ces deux personnes à faire un nikah, un vrai mariage. Ils peuvent se fréquenter, peuvent venir à la maison, ils peuvent sortir ensemble, ils peuvent aller manger une glace, manger une pizza, aller faire un tour, c'est ce que les jeunes ils veulent, d'accord? Mais il n'y a pas de vie commune pour l'instant. C'est-à-dire, ma fille revient chez moi le soir et le garçon il retourne chez ses parents. Et il n'y a pas le devoir de dépense sur le mari. Le mari n'est pas encore responsable des dépenses de sa femme. Parce qu'il n'a pas d'argent dans un sens. Donc on sait que pertinemment qu'il ne pourra pas. Donc ce devoir-là n'est pas encore sur ses épaules. Il vivra avec elle, il va assumer les dépenses quand tous les deux ils auront ou quand le mari aura son travail, c'est-à-dire dans 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais en attendant, mes enfants sont protégés de l'adultère. Ça c'est quelque chose qui est réalisable, islamiquement parlant, et ce serait un geste fort. À condition bien sûr, comme on l'a dit, que ce soit des relations qui sont sérieuses. Il faut faciliter l'accès au mariage. Parce que si nos enfants, à cause de notre réticence et de nos exigences, ils font le zina, je crains qu'on aura une grande part de responsabilité auprès d'Allah Azza wa Jal. Et surtout ne pas faire comme certains parents. Et on sait, il y en a qui ferment les yeux volontairement. Hein, c'est de la lâcheté, si ce n'est pas de l'hypocrisie. Pour eux, même si mon garçon il fait zina avec toute fille qu'elle n'est pas musulmane, pas grave. Du moment qu'il réussit ses études, hein. Et deuxièmement, quand il faut marier, il va gagner un bon petit fils musulman. Après, le reste qu'il a fait, de toute façon, ceux qui n'ont pas la foi, ils font zina avec n'importe qui. Donc, laisse-moi marier, amuser. Et après, quand elle a fini, il va. Quelle réponse j'aurai à rendre auprès d'Allah Azza wa Jal? Est-ce que cet argument tient le coup devant le tribunal d'Allah Subhanahu wa Ta'ala? Il faut qu'il y ait une prise de conscience. Il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui sont inévitables à notre époque. Et moi, en tant que parent, je peux agir. Ça, c'est un premier cas de figure. Et là-dessus, je pense que tout le monde est d'accord. L'autre cas de figure, pas tout le monde sera d'accord. Surtout les anciens. Il n'y a pas beaucoup d'anciens, il y en a quelques-uns. Et ça, c'est un problème que rencontré avec mes élèves. Quand je dis mes élèves, c'est du quartier de Saint-Clotilde. Et quand je parle de quartier de Saint-Clotilde, c'est communauté comorienne. Et un peu du côté de Moufia, mais un peu moins communauté mahoraise. Malaise, grand malaise chez les jeunes. J'ai un élève qui vient me dire lundi soir, il vient me voir, il m'a déjà parlé de son histoire, on a essayé de l'aider, mais ça n'a pas réussi. Il dit voilà, j'ai 22 ans, 20, 21 ans, j'aime une fille, d'accord, ce jeune homme est comorien, la fille est comorienne, il dit que je peux me marier, hein, je fais des petits stages, je gagne un peu d'argent, et c'est des gens qui, alhamdoulilah, ils ne manquent de rien, et mes parents sont d'accord. Mais les parents de la fille ne sont pas d'accord. Pourquoi? Parce que la fille n'est pas du même village que moi. C'est vrai, c'est pas vrai ça? Est-ce que ce cas de figure existe, oui ou non? Il m'a dit, Moïse, je fais quoi? J'aime cette fille, elle est amoureuse de moi. On s'aime, je peux vivre, je peux prendre un studio, je peux avoir des aides et tout pour avoir une autonomie, tout est possible. La seule chose qui bloque, c'est que les parents de la fille ne sont pas d'accord parce que nous ne sommes pas du même village. La question qu'on peut se poser, est-ce qu'il n'y a pas un volm dans cette manière d'agir? Est-ce qu'il n'y a pas une injustice? Empêcher des gens qui s'aiment de se marier, d'avoir une vie commune, risquer qu'ils vont faire le zina parce que je me suis opposé à leur mariage, qu'est-ce que j'aurai à répondre auprès d'Allah Azza wa Jal? Alors que le prophète m'a dit « Iza atakum man tardawna dinahu wa khuluqahu fankihuhu wa law fazawwijuhu wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir » Quand un jeune homme vient demander la main de votre fille et que ce jeune homme a les qualités qu'il faut de din et de comportement, accordez votre fille en mariage. Si les conditions sont réunies, on sait que c'est quelqu'un de bien, faites marier. Ne refusez pas, autrement ce sera des péchés dans le dunya. Et là, on sera directement responsable de ça. Donc, là j'ai dit que les jeunes seront d'accord, mais les anciens, ils auront des réticences. Et j'ai expliqué, on était à Saint-Clotilde, où il y a, mashallah, le fief avec ses élèves, hein, et leurs parents étaient là. Donc j'ai dit que même dans notre communauté à nous, chez les Indiens, les descendants indiens, il se fut une époque où il y avait ce genre de séparation. Il y avait les comment on appelle ça? Alhamdulillah, je n'ai pas connu cette époque. Il y avait les Sourtis, il y avait les Baïsab, et après il y a les Gamalia, après il y a les je ne sais pas quoi, je ne peux en citer que trois. C'est-à-dire qu'alhamdulillah, le problème a été digéré il y a au moins 100 ans. Mais ce fut une époque où les gens se battaient. Le Sourti ne se mariait pas avec le Baïsab. C'est comme si on dit que lui, tel village, il ne se marie pas avec tel village. C'était le même problème. Dans les tribus arabes, même problème. Lui, il est de telle région, l'autre est de telle région, ça c'est une grande tribu, lui c'est une petite tribu, on ne va pas se marier. On se marie dans une même tribu. C'est le meilleur des mariages pour que le sang reste, pour que l'héritage, etc., etc. Malheureusement, dans toutes les communautés arabes, indiennes, comoriennes, maoraises, africaines, je suis sûr qu'en Asie c'est pareil, chez les Indonésiens, Malaisiens, en Turquie, etc., ça c'est jahiliya. Ça c'est des coutumes, mais il faut passer au-delà de ça. Gardez dans notre esprit que si dans la personne qui veut la main de ma fille, il y a iman, je dois accepter, parce que dans cette vie-là, ils auront la foi, ils auront les bonnes actions, et il y aura la baraka. Donc à nous d'essayer un jour, incha'Allah, de changer les mentalités, de comprendre qu'on a besoin de protéger nos enfants du zina. Allah Ta'ala dit, « Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar » Ce feu de l'enfer-là, on doit avoir peur. Et une des choses qui mène vers l'enfer, c'est l'adultère et les choses qui sont mauvaises. Et puis ce jeune garçon, il me dit, ah là ça ne va pas plaire à tout le monde. Hein. Il dit que voilà, il connaît l'exemple d'un camarade, il y avait ce problème. Mais les parents étaient d'accord, mais c'est les deux problèmes ensemble. Il dit, les parents étaient d'accord, il dit que, mais on verra, comme ce n'est pas le même village, il faut réfléchir par la suite. Il dit que, et malheureusement, ces deux personnes-là sont tombées dans l'adultère. Le garçon a eu des relations avec la fille est enceinte. Ils ont fait nikah le lendemain. Les parents ont dit, faites nikah tout de suite. Là, ils ne posent plus de questions. Pourquoi? Parce qu'il faut camoufler cette erreur de parcours pour protéger l'honneur de la famille. Pour pas qu'on dise qu'un tel a fait zina, le fils a retrouvé à l'enceinte et tout, pour faire croire que ben non, ils se sont mariés et alhamdoulilah, ils ont un enfant rapidement. Regardez, je ne dis pas que c'est la solution, na'oud billah, mais regardez vers quel péché parfois hein, on peut tomber, on peut aboutir quand il y a des restrictions qui n'ont aucun sens. Donc on doit prendre conscience, on doit protéger nos enfants et leur permettre de faire le mariage et essayer de revoir un petit peu ces coutumes, faire en sorte que les gens qui s'aiment, qui sont sincères, qui ont le dîn, inshallah, ils peuvent se marier. Et quand on se marie, il ne faut pas oublier, parfois on a peu de la pauvreté. Allah Ta'ala dit au Coran, « In yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli » S'ils sont pauvres, ils n'ont pas les moyens, Allah va leur accorder l'argent, les biens. Parce que dans le nikah, il y a la baraka et il y aura donc la subsistance. Inshallah, j'espère que le message est passé. Si ce n'est pas cette génération, il faut que les générations qui vont venir après, inshallah, ils ont un peu plus d'ouverture d'esprit. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah.